dans le panier de Lisa. Lisa Giraud-Taylor.
Bonjour et bienvenue dans ce panier, dernier panier, puisque la semaine prochaine il y aura un MP3 spécial bal du 14 juillet. Ah, oh, vas-y. Ah, oh, je vous concocte un truc. Seigneur. On a fait la playlist avec le lutin, je vous raconte pas. On limite, on était écroulés de rire, tellement on riait, je pense qu'il y a eu quelques allers-retours en escale technique. Tellement on a rigolé. Alors. Au programme de ce panier, puisqu'il y aura une pause estivale, hein, Lisa s'en va, pas en vacances, mais fait une pause. Mais par contre, vous me retrouverez tout le long de l'été pour des rediffs. Vous inquiétez pas, mes imbécilités seront toujours à l'antenne. On va parler de 4 séries, dont 2 coups de cœur et d'un film, pour lequel je ne suis absolument pas impartiale, on est bien d'accord sur la question. Et peut-être je vous dirai ce que j'ai vu aussi au cinéma, enfin l'autre film que j'ai vu au cinéma où là a mitigé la bestiole, mais pas voilà, j'ai mes objectifs avec certaines choses. Voilà, alors on commence tout de suite par la musique, hein. Vous allez voir, c'est une playlist un peu de n'importe quoi, mais ça augure bien de ce qu'on vous prépare pour la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, on va faire des calamités. Non, on va laisser chanter les calamités avec vélo moteur. Ça n'a aucun rapport avec... Le lutin va me dire, ça n'a aucun rapport avec... Non, ça n'a aucun rapport. Quoique, la série, c'est peut-être un vélo moteur. C'est pas... c'est un vélo moteur, c'est pas un avion de chasse. On est bien d'accord. Allez, les calamités vélo moteur. Et on commence tout de suite par la série, comment dire, calamité. Seigneur.
Passé que je n'aurais pas regretté. Oh.
oui, alors quand on vous a dit qu'on allait passer des chansons, on a chanté. Oui, bah écoutez, on la connaît par cœur, c'est ça qui nous a fait un peu peur, c'est que c'est du merde, on la connaît par cœur. Alors, on va parler de la, on va dire de la série que je vous indique, mais qui pour moi est un abandon. Voilà. Mais ça peut plaire à pas mal de choses. Alors, ça s'appelle The Agency, donc c'est sur Canal+. C'est le remake US de la série, une de mes séries adorées de tous les temps, une série française qui s'appelle Le Bureau des Légendes. Alors, je dois avouer que c'est pour ça que j'y suis allée, parce que je me suis dit, quand même, Le Bureau des Légendes, ils ont réadapté. Bon, c'est les Américains, ça va être manichéen, mais quand bien même, ça va être pas mal. Et au générique, excusez-moi du peu, Michael Fassbender, Richard Gere, on se dit quand même, ça peut pas être mauvais. Voilà, ça c'est fait. Alors, honnêtement, moi, dès le premier épisode, j'ai pas du tout accroché. J'ai trouvé ça pas très crédible, notamment... alors, ce qui faisait la force du Bureau des Légendes, outre, bien sûr, les agents, les infiltrations, on va dire leurs histoires personnelles, leurs légendes, puisqu'on leur créait des fausses identités où ils étaient, on les envoyait un peu à droite, à gauche, etc. Et il y avait, le fil rouge était que le personnage de Mathieu Kassovitz était amoureuse d'une jeune femme, et amoureux d'une jeune femme, et que... En gros, c'était plus ou moins la première fois qu'il tombait vraiment follement amoureux et qu'il faisait des énormes conneries pour la sortir de d'où elle était. Et que, bah voilà, elle était un peu embarquée malgré elle dans la... Alors là, puisque le personnage donc, de Marciane, qui est donc ce fameux personnage qui est basé en Afrique depuis une dizaine d'années presque, comme espion hein, voilà, de la CIA, doit abandonner sa position et repartir à la maison mère à Londres. Mais l'histoire d'amour entre cet espion américain et cette professeure éthiopienne, on n'y croit pas une seule seconde. Alors le lutin qui est quand même un tout petit peu plus, si tu es quand même beaucoup plus tolérant que moi sur les invraisemblances de scénarios, machin, il m'a regardé, il m'a dit mais c'est pas vraisemblable ce truc. Je dis moi non plus, je trouve pas. Voilà. Alors Londres, c'est beau, les hôtels, c'est beau, les appartements de planque, ils sont très agréables, hein, à croire que... Voilà. La fille du héros qui vient le voir alors qu'il la voit rarement, mais il ne sait pas comment faire avec elle. Vous avez l'impression qu'en fait, c'est quand même un espion, il est traqué partout. Il n'est pas du tout censé faire ce genre de choses. Il se promène tout à fait allègrement. Il va manger avec sa fille. Sa fille rentre, sort de son appartement. Vous avez l'impression qu'il n'y a personne qui les surveille. Alors, il y a quelqu'un en bas qui planque, mais il n'y a personne. Et en plus, alors plus ça avance, plus les espions sont complètement affolés à chaque fois qu'il y a une mouche qui vole. Voilà, ils ne sont pas si fiables que ça, en plus, voilà. Et limite, certains sont cuculés à praline. Alors, je dois avouer, le lutin a continué à regarder. Il en est à 6, il m'a dit qu'il finirait la série pour voir. Hein. Alors, moi, je lui ai dit, non, je lâche prise. J'ai regardé 4 épisodes et j'ai dit, laisse tomber. Voilà. Vraiment, c'est dommage. Alors, je suis sûre qu'il y a plein de gens, si vous n'avez pas vu Le Bureau des Légendes, et c'est pour ça que je vous le signale, si vous n'avez pas vu Le Bureau des Légendes, honnêtement, The Agency va vous plaire parce qu'il y a tout ce qu'il faut, il y a du danger, il y a des courses-poursuites, il y a de l'espionnage, il y a de l'amour, il y a de la raison, il y a des intrigues internationales et d'espionnage. Évidemment, tout ça sur le territoire anglais avec la CIA qui est implantée là-dedans. Donc, le jeu de dupes entre le MI5 et la CIA qui s'amuse beaucoup. Voilà, il y a tous les ingrédients pour en faire une bonne série, mais quand on a vu Le Bureau des Légendes, c'est même pas une adaptation. Ils ont piqué presque tout, ils ont réadapté, mais ça marche pas. Voilà, c'est vraiment... À la rigueur, ils auraient peut-être mieux fait de prendre, entre guillemets, l'essence, sachant que vous avez eu des séries, par exemple celle avec Claire Danes, etc. Voilà, il y a eu quand même des séries d'espionnage américain ailleurs, etc., qui sont largement au niveau. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une série israélienne de... D'ailleurs, ça répond à l'actualité d'espions israéliens qui restent sur le sol iranien depuis des décennies et qui sont réactivés. Alors, il y a des invraisemblances, entre guillemets. L'héroïne est un peu trop, on va dire, elle file quand même un peu trop entre les mailles du filet des gardiens de la Révolution. Limite, elle fait à un moment donné, elle fait une manifestation. C'est limite si elle jette pas une pierre sur quelqu'un et personne ne l'arrête. Voilà. Mais la base du truc marche largement mieux que ça. Voilà. Mais si vous n'avez pas vu le Bureau des légendes, je vous dis, vous pouvez y aller. Nous, on a un pote qui est là, qui avait pas vu, qui a trouvé ça très bien. Donc, voilà. Mais moi, non, abandon. Alors, on va passer de la musique et on va passer à un des deux coups de cœur série. Et là, franchement, voilà, ça... Ah bah, il y a du niveau. C'est sûr qu'effectivement, je les ai regardés pratiquement en même temps. Ah, c'est sûr que... Il n'y a pas de questionnement là-dessus. Allez, on se fait une nuit sauvage avec les avions et on parle d'un département qui va beaucoup faire rire tout le monde. Mais que voulez-vous ? Il s'appelle comme ça. Les avions avec Nuit Sauvage. Alors cette série, en tous les cas, vous allez comprendre, premièrement, pourquoi c'est un coup de cœur, mais surtout, vous allez comprendre mon cheminement. quand vous aimez une série, enfin un livre, parce que c'est une adaptation de livre, hein, vous avez toujours un peu peur, je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours un peu peur quand, par exemple, j'ai adoré un livre ou une saga et que c'est adapté à l'écran. Parce que vous avez dans votre tête tout le temps la tronche d'un personnage, vous avez inventé, etc. Et ça ne correspond pas toujours à ce que vous aimiez. En sus, ce saga littéraire-là a été déjà adapté au Danemark. Et j'avais beaucoup aimé l'adaptation. Alors j'y suis allée avec, avec des petites réticences en me disant « aïe, aïe, aïe ». Bon, le seul truc, c'est que l'acteur principal est un acteur britannique que j'aime beaucoup, qui est Matthew Good. Et donc, bon... Il n'a jamais été rare, il est rarement mauvais, on va dire qu'il est souvent très très bon. C'est quelquefois le scénario qui le dessert, mais en règle générale, c'est un bon acteur. La saga dont je parle, c'est la saga littéraire de Jussi Adler-Olsen. Les gens qui connaissent, c'est Les Enquêtes du département V. Il y a 10 livres, le 11e a été co-écrit par deux écrivaines danoises sous la supervision de Jussi Adler-Olsen, qui avait dit qu'il en faisait que 10, mais bon, visiblement, il a laissé son bébé pour, on va dire, une des nouvelles enquêtes, mais sûrement pas comme il le faisait lui. Donc, moi, j'avais lu les 10 et je me suis dit, on y va. Alors, quand on a regardé la série danoise, voilà, je vous dis, on avait un peu peur. Eux, ce qu'ils ont fait sur Netflix, donc ça s'appelle Les Dossiers Oubliés Département Q, puisque en fait c'est le département Q en anglais, hein, dans tous les pays du monde c'est Q, sauf en France, parce que vous imaginez bien que appeler une série littéraire Les Enquêtes du département Q en France, c'est moyen, on est bien d'accord. Voilà, donc ils ont fait Département V. Donc là, c'est vraiment Département Q, si vous cherchez, hein, c'est Département Q sur Netflix, hein, où vous cherchez Dossiers Oubliés. Mais ce qu'ils ont fait d'original, c'est qu'ils ont adapté et délocalisé l'histoire. Ça se passe au Danemark, la version littéraire et la version, l'adaptation série. Des petits films, d'ailleurs, c'est carrément un petit film à chaque fois. Et là, ils ont délocalisé en Écosse. Et ce qui aurait pu me bloquer, parce que je suis vraiment une grande fan de la série littéraire, eh bien, ça ne m'a pas bloqué, j'ai trouvé ça génial. Voilà. Alors on est en Écosse avec les mêmes personnages sauf le prénom de Hassan dans la saga qui est devenu Akram pour une raison qui est expliquée hein, d'ailleurs qui est expliquée par les réalisateurs, enfin le scénariste qui a adapté, donc c'est tout à fait plausible. Donc là on est donc avec Karl Mok qui est un policier brillant mais qui est pas facile à vivre. Il est sarcastique tout le temps, il a tout le temps des ennuis au sein de la police de Édimbourg. Et suite à une fusillade qui a coûté la vie à un jeune agent et qui a paralysé son partenaire, il se retrouve exilé au sous-sol du commissariat dans ce fameux département Q, qui est une idée qui est en gros hein, nouvellement créée pour résoudre les affaires non résolues, vous imaginez bien, pour le foutre au placard en se disant il va jamais les résoudre, on va être tranquille, on est tranquille. Simplement, Karl Mok est intelligent. Il est cynique, il est insolent, désabusé, limite carrément tête à claque, mais il va être rejoint par deux autres personnes. Rose, qui est un peu inexpérimentée, mais qui est toujours à même d'aider Karl dans ses choix. Et ce fameux Akram, qui est un peu moins caricatural au début, mais qui est très discret, toujours en retrait. On sait hein, qu'il y a eu un truc, voilà, on comprend qu'il y a un passé douloureux chez lui, mais il va devenir rapidement le pilier de Karl, parce qu'en fait, il le calme, il le raisonne plus ou moins. Voilà. Et la première enquête, donc c'est le premier livre de la série Miséricorde, qui, en fait, est la traque, la recherche carrément passionnante d'une jeune femme qui était procureure, qui a disparu du jour au lendemain et que l'on suit sur 4 ans, qui est enfermée en fait dans un caisson hyperbare par deux personnes qu'on ne voit jamais au début. Et rien ne nous est épargné sur ces conditions de détention. Je peux vous assurer qu'il y a tout ce qu'il faut pour bien nous stresser. Et en fait, Karl va tomber sur cette histoire et va enquêter. tranquillement. Alors, on suit bien sûr l'enquête, mais on suit aussi les rapports difficiles de Carl des supérieurs avec ses collègues, avec ses rébellions, ses soucis personnels par rapport à ses deux douze, sa rencontre avec une psy qui va avoir son importance après pour la suite, ses nouvelles fonctions, etc. Et toujours délocalisé avec de l'humour, et en fait ben, l'humour danois se transforme en humour écossais, mais c'est aussi bon. Et franchement, j'ai hâte que les autres saisons arrivent, parce que vous passez du personnel au professionnel, du très glauque au très gore, à une espèce d'esprit de vengeance et une course contre la montre, parce que cette jeune femme est en train littéralement de crever. Tout le monde pense qu'elle est morte hein, depuis 4 ans, mais voilà, par un concours de circonstances, ils vont penser qu'elle est vivante et ils vont la récupérer comme ils peuvent. Mais vraiment, si vous aimez les policiers, les trucs un peu glauques, le côté un peu, bon, bah là, en l'occurrence, écossais, que vous aimez les accents à couper au couteau, moi je l'ai vu en VO, hein, donc c'est absolument fantastique, allez voir Les Dossiers Oubliés sur Netflix, donc Département Q. Voilà, si vous avez aimé la série, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas vous ayez aimé la série littéraire, vous aimeriez sûrement la série télé. Après, je vous dis, si vous êtes très attaché au fait que ça soit au Danemark, machin, vous pouvez vous dire « Ah oh ouais, mais bon, quand même, ils ont exagéré. » Non. Voilà, moi, je suis vraiment la fan de la série littéraire et ça ne m'a pas du tout choqué. Au contraire, j'ai trouvé que les acteurs étaient vraiment bien castés. L'actrice qui joue le procureur enfermé, là, elle est topissime, hein, vraiment. D'ailleurs, au début, vous êtes limite à la détester. Parce que vous savez ce qu'elle a fait. Et donc, vous vous dites, ah ouais, non, mais... Et petit à petit, se distillent des trucs. Et vous vous dites, ah ouais, non, non. Bah, du coup, non. Alors, voilà. Et c'est ce que j'aime sur la série danoise de Jussi Adlerhausen. Et ce que j'aime dans cette série, donc, sur Netflix. Allez, petite pause musicale avec Thierry Pastor et Coup de Folie. Ah bah, on va dire que Coup de Folie, ah oui, oh bah, ça résume bien hein, le deuxième coup de cœur série, là. Ah bah oui, largement résumé. Ah bah, c'est des fous. C'était donc Thierry Pastor avec Coup de folie. Alors honnêtement, la série qui vient après, c'est une série qui, je vous le dis tout de suite, moi ça a été un coup de cœur. Ça s'appelle Mobland, c'est sur Paramount, donc sur MyCanal si vous avez. Nous sommes avec la famille Harrigan, qui est à la tête du crime organisé à Londres, qui répond à une autre famille qui s'appelle les Stevenson, qui est aussi en fait une famille mafieuse. Et ces deux familles vont lutter pour conserver le pouvoir au sein de ce syndicat du crime mondial, autant parce qu'il y a tellement d'argent en jeu et de pouvoir en jeu que tout le monde s'endort en accord joie pour essayer de liquider celui d'en face. Quand je vous dis que c'est réalisé, produit par Guy Ritchie, et que au générique vous avez ni plus ni moins que Tom Hardy, Pierce Brosnan et Hélène Mirren, si c'était pas suffisant pour se jeter dans la bagarre, je vois vraiment pas du tout ce que vous pourriez faire. Alors, si vous aimez, je vous le dis tout de suite, attention, si vous aimez Guy Ritchie, et Guy Ritchie, c'est quand même un réalisateur où c'est cru, c'est violent, c'est vulgaire quelquefois, c'est sanglant, il nous épargne rien sur le côté gore. Il y a une scène, honnêtement, dans un des épisodes, qui est off caméra, mais ce que vous voyez vous à l'écran et le bruit que vous entendez, je peux vous assurer que ça vous remue les tripes, mais vraiment c'est un truc, c'est pas la peine de montrer. Quelquefois il y a des gens qui montrent, enfin il y a des films ou des séries qui montrent le truc cru à l'écran ou sanglant ou gore, et en fait quelquefois ne serait-ce que le bruit et le visage de quelqu'un qui voit ce que vous ne voyez pas, qui est off, ça suffit amplement pour vous remuer le cœur. Moi, personnellement, j'avais le cœur tellement serré que j'aurais pas pu manger. On n'aurait pas pu manger en face de ce truc-là. Ah ouais, le lutin me dit, mal au cœur. Lui, il me fait, ouh. Voilà. C'est, honnêtement, c'est un truc, c'est une merveille. Voilà, c'est vraiment très très bon. Voilà. Alors attention, si vous n'aimez pas l'univers de Guy Ritchie, n'y allez pas, hein, on est bien d'accord, parce que là franchement, côté règlement de compte, violence, sang, découpage en tout genre, et autres joyeusetés, voilà. Alors à la base, ces deux familles, en fait, ça part du moment où leurs deux petits-fils, chacun de l'autre côté, qui font des conneries, se retrouvent dans une situation un peu bizarre, et un des deux fait tuer l'autre. Voilà, alors il faut dire que celui qui fait tuer l'autre, c'est quand même un psychopathe. Hein. Si vous le voyez tout de suite, c'est un maboule. Et ça va déclencher des hostilités. Le problème, c'est que non seulement ces deux familles luttent pour le monopole du trafic et en tout genre, ça part vite en sucette, mais chacun a des alliés. Donc les alliés se rendent dans la bagarre. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, hein, on est bien d'accord sur la question. Voilà, alors honnêtement, à la tête de cette famille Harrigan, le couple le plus flippant de l'année. Pierce Brosnan, qui est en mode papy mafioso, mais style j'aime bien pêcher, je suis gentil, mais vous sentez qu'il est pervers et qu'il est malsain. Il a une relation malsaine avec les gens, vraiment. Et sa femme, qui est jouée par Hélène Mirren, qui est non seulement une conseillère retorse, particulièrement machiavélique, qui attise les flammes de tous les côtés, en gros pour récupérer le pouvoir. On comprend bien le truc de la dame, mais qui n'hésite absolument pas à mettre dans la balance la vie de ses propres enfants, rien carré tant qu'elle récupère le pouvoir. Et Tom Hardy, qui est le fils spirituel, l'homme de main, de confiance, etc., qui se débat, alors lui, avec une femme qui en a ras-le-bol, une fille qui en a rien à foutre, et quelques ennemis qui le trouvent assez sympa comme fusible pour atteindre, bien sûr, les patrons. Bref, ça va à 100 à l'heure. Ça tire, ça tue, ça menace, ça torture, mais malheureusement, c'est jouissif comme série. Alors, on pense, bien sûr, un peu à Peaky Blinders ou à la série superbe que Guy Ritchie avait fait il n'y a pas longtemps avec Theo James, qui s'appelle The Gentleman, qui était issu de son film, éponyme d'ailleurs. Franchement, voilà, il y a plein d'autres séries qui parlent de familles de mafieux, mais là, c'est tellement bien interprété, franchement, on en redemande. Alors, c'est pas la série de l'année, style, ça sera pas la numéro 1, parce qu'il y a quelques petits trucs qui, on se dit quand même, c'est gros, mais franchement, cette plongée dans Londres et surtout dans la campagne anglaise, au milieu d'une propriété sublime dans les Crossroads, qui est très belle, qui est très très calme. Vous avez l'impression qu'il a un lac dans sa propriété, il pêche des trucs, mais en fait, en gros, il ordonne à peu près tout ce qu'on peut ordonner comme horreur. Franchement, meubland, quoi. Allez-y, si vous aimez Pierce Brosnan, vous allez adorer. Si vous avez aimé Hélène Mirren, vous allez vous prosterner devant la bête. Et pour tous ceux qui, comme moi, adorent Tom Hardy, eh ben, vous allez soupirer. Alors, oh ben écoutez, hein, on est midinette une fois, on ne peut pas être midinette tout le temps. Allez, petite pause musicale. Et alors là, bon, je vous dis, on a fait une playlist de débiles. La petite Lady Vivien Savage. Est-ce que ça a un rapport avec... Ah si, quand même, elle quelquefois un peu habillée, colorée, la bête. Oui, oui. Bon, après, c'est pas la série de l'année, mais ça se tient vraiment bien. Mais c'est une série mitigée, mais qui a des bons trucs. Voilà. Allez, Vivien Savage, la petite Lady, on se retrouve juste après.
Qu'est-ce qu'elle attend, la petite Lady, garçon hasard? Qu'est-ce qu'elle me veut, la miss, avec ses yeux de renard, derrière la voilette du chapeau, avec une plume d'autruche pour faire plus beau? Gratte-moi la puce que j'ai dans le dos. Mais qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'elle est belle, la petite Lady déguisée comme un arc-en-ciel, avec ses boots en peau de serpent, son col en rose fluorescent, sa mini-jupe en skate, et comme ça swing sous son chandail, j'aime dévisser. À force de la regarder, il faut que je dise que je veux faire des bêtises. Je peux pas rester minable plus longtemps sans la brancher. J'aurai pas tes images, mais je vais pas laisser passer le train. Pour ce genre de voyage, j'ai peur de rien. Ah là là, qu'est-ce que tu bouges bien. On dirait que le monde est à toi quand tu te promènes. Sur ce quai de gare Cendrillon, tu marches comme une reine. Dans les yeux de ces types qui traînent avec leur blouse de fin de semaine. Et moi, comme je t'imagine, aussi givré qu'une mandarine, j'ai pas te laisser partir avec un légionnaire en perle. J'ai pas te laisser séduire par le premier marin qui traîne. J'ai pas te laisser dormir toute seule si t'es libre ce week-end. Car tu as comme un petit chat sauvage dans les yeux qui ressemblent au tatouage. J'ai pas te laisser partir avec un légionnaire en ferme. J'ai pas te laisser séduire par le premier marin qui traîne. J'ai pas te laisser dormir toute seule si t'es libre ce week-end. Car tu as comme un petit chat sauvage. J'ai pas te laisser partir avec un légionnaire en ferme. J'ai pas te laisser séduire par le premier marin qui traîne. J'ai pas te laisser dormir toute seule si t'es libre ce week-end. Car tu as comme un petit chat sauvage dans les yeux qui ressemblent au tatouage que j'ai dans le cœur. Y'a pas d'erreur.
Alors après La Petite Lady de Vivien Savage, on va parler d'une série française sur Canal+ qui s'appelle Plaine Orientale. Alors on est en Corse. C'est une série qui pour moi en fait parle plus de l'appartenance et de l'identité corse que sur la mafia elle-même et les trafics, même si ça a une grosse base arrière sur ça. Alors, on est avec Reda qui sort de prison. Le papa est un ancien indépendantiste corse qui s'est rangé. Et sa maman est une Algérienne qui est partie vivre dans son pays et qui a refait sa vie, qui a eu une fille, mais ils ne se sont plus jamais parlé depuis au moins 20 ans. Et il sort et il espère renouer en fait avec son ancien complice qui entre-temps est devenu le second du parrain énigmatique de la mafia corse, puisque en fait personne ne sait qui il est, à quoi il ressemble et où il vit, puisqu'en fait il vit sur un bateau, donc c'est assez facile. Et au même moment débarque à Bastia une jeune femme qui s'appelle Inès, qui n'est autre que sa demi-sœur, qui va le voir en prison en lui disant voilà, moi je veux renouer, on est frères et sœurs, etc. Mais ce qu'elle lui dit pas trop au début, c'est qu'elle est magistrate, elle vient intégrer le pôle anti-mafia qui a été créé entre la police et la justice locale pour faire tomber ce fameux Carlotti. Et elle va proposer rapidement à son demi-frère de faire une alliance secrète qui est, on va dire, très casse-gueule. Hein. Ah bah si, quand même. Alors, le seul petit truc, et c'est pour ça que je vous disais, c'est un peu mitigé, le seul petit truc, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même une invraisemblance pour moi. Mais peut-être que vous allez me dire que non, mais il y a une invraisemblance sur la possibilité de certaines scènes. Par exemple, le frère et la sœur, enfin les demi-frères et sœurs, mais la frère et la sœur se rencontrent à un moment, dans 2, 3, 4 épisodes au début, pour, on va dire, pour mettre en place ce qu'il veut, parce qu'il n'est pas très très chaud, mais bon, il veut faire tomber quelqu'un, donc le fameux mec pour qui il a passé 10 ans en prison, et ils se rencontrent dans des points perdus. Alors, attention, si vous ne connaissez pas la Corse, c'est très très beau, donc là vous avez la vue sur des baies absolument sublimes. Mais quand on sait que le parrain du coin et son ex-copain l'ont un peu dans le viseur, c'est quand même un juge anti-mafia qui est arrivé à un pôle hyper, hyper pointu, qui est sorti major de sa promo, qui a les policiers du coin, je trouve ça assez bizarre, enfin j'ai trouvé ça assez bizarre qu'il n'y ait personne qui les surveille. Et que personne n'arrive à les choper, même s'ils sont très loin, c'est assez étrange, voilà. Parce que, voilà, il la rencontre à un moment donné sur une plage, tout à fait normalement. Il faut attendre pratiquement la moitié de la saison pour que ça soit un policier, le pote de la procureure, qui les surprend, voilà. Donc là, je me suis dit quand même, c'est très très étrange. En plus, je vous dis, elle sort major de sa promotion, elle est affectée dans la cellule anti-mafia et personne. En fait, est arrivé à remonter sa fiche technique, on va dire, parce qu'il suffit juste de regarder qui est sa mère et son père, et de voir que sa mère avait déjà été mariée, en plus un indépendantiste corse, alors inutile de vous dire qu'il était un peu sur les plaquettes de la police locale, je suppose, quand même, un minimum, et qu'il a eu un fils. Enfin, voilà, donc ça m'a semblé un peu bizarre. En plus, elle fait copine avec un flic. D'ailleurs, c'est dit dans la série que normalement, les flics et les juges, ça ne copine pas. Enfin, on n'essaye pas de copiner. Voilà, et que, en gros, elle se prend un peu pour la reine de Saba. Elle fait des vidéos dans les lieux de planque. Elle se promène dans les lieux de planque tout à fait normalement. Voilà. Donc, il y a quand même 2-3 trucs où je me suis dit quand même c'est un peu gros, mais tout le reste, ça passe. Voilà, alors, on a tout le monde de ça. C'est-à-dire que ceux qui sont les hommes de main, les petits chefs, les bras droits, ceux qui ont épousé la fille du chef, qui d'ailleurs n'est autre que l'ex du fameux Reda, et... Tous ces gens-là fomentent, essayent de trouver, etc. Alors évidemment, hein, moi j'aime bien le côté que ces hommes sont quand même en retrait par rapport à leurs femmes, leurs filles, etc. Parce que par exemple, le chef, on va dire, de la mafia, le Carlotti, il s'assoit littéralement, enfin il se courbe devant sa fille et sa petite fille. Véritablement, sa fille, c'est la prunelle de ses yeux, il ferait n'importe quoi pour elle. Et donc, elle est la seule d'ailleurs à lui parler comme une merde. Les autres, les autres non. Vous imaginez bien, par exemple, la chef de la cellule de la mafia est froide comme de la glace. Mais on sent qu'elle est autant déterminée qu'elle peut avoir un truc fragile. D'ailleurs, elle est assez ambiguë sur cette histoire. Bon, la sœur, n'en parlons pas. Et puis, évidemment, la fille du parrain, elle est quand même croisée entre le fait qu'elle est, elle retrouve son amour de jeunesse et en fait le seul mec qu'elle ait jamais aimé, et quand même la loyauté vis-à-vis de son père, qui fait pas quand même des choses très catholiques, elle le sait. Mais bah, c'est quand même son père. Voilà. Alors, sous la chaleur corse, vous avez la lutte de pouvoir, la corruption, ceux qui ont décidé d'abandonner leurs convictions pour sauver ceux qu'ils aiment. Vous avez au milieu les flics, les dealers, les gamins coincés entre les deux identités. Parce que, par exemple, je parlais d'identité, mais le héros, en lui-même, il le dit. Il est trop corse pour les maghrébins et il est trop maghrébin pour les corses. Donc, en fait, il a le cul entre deux chaises, entre deux cultures, entre deux traditions, entre deux vision de la fierté, de la loyauté, de la vie et des origines, et qui sont pas si éloignés que ça quand on le voit. Mais voilà, on sent bien que ça va être l'hécatombe, hein. On sent bien que de part et d'autre, ça va partir dans tous les coins. Voilà, c'est sympathique. Ça sent très, très jadis, on va dire, la tragédie grecque corse, et que ça va être un gros n'importe quoi ou pas à la fin, parce que bah, ça dépend qui c'est qui va décider de quoi et qui va appuyer sur le mauvais bouton. Alors après, si vous avez vu Mafiosa, c'est pas du tout le même style. Voilà, c'est une excellente série, mais qui était très, très largement plus froide et feutrée. Là, c'est vraiment pas du tout. Par contre, il y a des acteurs qui étaient dans Mafiosa et qui reviennent dans cette série-là, Plaine Orientale, et qui jouent d'autres rôles, qui ont en fait, en gros, mûri. Et j'ai trouvé ça très, très, très sympathique et très agréable à voir. Donc voilà, Plaine Orientale, si vous aimez, ça peut se faire. Je vous dis, moi, j'ai trouvé deux, trois invraisemblances qui font que c'est mitigé, mais c'est bien foutu. Voilà, donc à vous de voir. Et on va faire dernière pause musicale avant de faire une petite, mais alors une petite incursion sur un film. Vous allez voir, je ne suis pas du tout objective avec le film, mais on s'en fout. On a l'habitude. Et on fait une petite pause avec Plastic Bertrand, Ça plane pour moi. Ce n'est pas mon choix, c'est le choix du lutin. Voilà, ah bah je balance, j'ai le droit.
Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant, prends mon whisky quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Ouh. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Son igloo, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan. Qu'elle me dit en passant. Ooh, I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. Ooh, ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. It's not today que le ciel tombera sur la tête et que la colle me manquera. C'est marre à tout casser, l'évier, le bar me laissant seul comme un grand connard. Le pied dans le plat, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi.
Alors après Plastic Bertrand, on va parler du film. Alors, sachant que j'ai vu 28 ans plus tard de Danny Boyle, c'est bien. Voilà, il y a quelques petits trucs qui m'ont un peu énervé. Mais voilà, c'est pas... c'est bon, bref, chacun verra quelque chose, mais bon, après, moi, j'aime bien la saga, donc c'est à moi, il y a des petites choses. Oui, je suis une flippette, le lutin vient de me dire tu es une flippette. Ah oui, j'ai sursauté 10 fois, mais je suis une flippette. Ah oui, ah bah là, moi, les zombies, moi, je suis une flippette. Autant les vampires, les trucs comme ça, ça me gêne pas, autant les zombies, ça me flippette. Bref, on est allé voir au cinéma. Oui, il y en a certains qui vont se dire, ah bah, tu m'étonnes. F1, le film de Joseph Kosinski, qui a d'ailleurs fait le dernier Top Gun Maverick. Alors, vous savez que je suis fan de F1, je l'ai déjà dit plusieurs fois. En plus, le film est produit entre autres par Lewis Hamilton, qui était conseiller technique. Oui, je rappelle. Cette fois, champion du monde, enfin 8 en vérité. Ah, bah ça, j'ai le droit de le dire. C'est presque 8. 7,5, on va dire. Sur lequel je me pâme depuis 20 ans, donc on est bien d'accord sur la question. Ça a été filmé dans les conditions de course, hein, puisque l'année dernière, enfin il y a 2 ans, et sur les autres saisons, on l'a vu faire. C'est-à-dire que on voyait, si vous suivez les trucs de sur Canal, parce que moi je regarde toutes les formules, enfin je regarde toutes les courses, tous les essais qualificatifs, tous les essais avant, après, sur les côtés, j'ai taré. Voilà, je suis capable de regarder en replay les essais libres, hein, donc oui. Voilà, on en est là quand même. Donc forcément, évidemment, j'ai foncé voir le film. Alors, c'est un film qui est hyper maîtrisé, très précis. Il y a quand même Hans Zimmer à la musique, ce qui est quand même pas dégueulasse. Et qui cale vraiment sa musique à la vitesse des Formule 1. Alors, on est d'accord, on est avec Sonny Hayes, qui était un prodige de la F1, donc qui est interprété par Brad Pitt dans les années 90, et qui a eu un accident de voiture terrible. Et donc, 30 ans plus tard, en fait, alors qu'il est devenu un pilote indépendant, il fait des trucs un peu style NASCAR, les rallyes, les machins, il est contacté par son ancien pote, coéquipier, qui est maintenant le patron d'une équipe qui est presque au niveau de la faillite. Il a trouvé une pépite dans un jeune pilote qui s'appelle Joshua. Il est sûr que ce garçon sera champion du monde et pendant des années, mais il lui faut quelqu'un, un coéquipier qui soit d'expérience. Donc il va aller chercher Sonny, qui n'est pas très très chaud hein, au début, mais qui voit là quand même une opportunité de revenir en Formule 1 pour prouver qu'il n'est pas un has-been. Alors, il faut savoir qu'en Formule 1, votre plus grand rival, ce n'est pas celui de l'écurie d'à côté, c'est votre coéquipier. Hein. On n'a qu'à voir en ce moment entre Norris et Piastri. Voilà, ah ben, c'est tout ça. Et il y a aussi le danger, parce que je rappelle que ces bestioles-là peuvent aller jusqu'à plus de 300 km/h. Inutile de vous dire que, voilà, on n'est pas... Alors, je sais, moi, pour avoir discuté avec d'autres personnes qui l'ont vu le même jour, quand on est sortis tous les deux du cinéma, il y avait des gens avec qui on a discuté. Y a pas mal de gens qui m'ont dit « Ah, mais bon, quand même, c'est un gros budget, les dialogues, c'est un peu râle et pâquerette, c'est très américain, etc. » Oui, mais oui, on est bien d'accord. Voilà. Mais si vous avez vu les documentaires sur Netflix sur la Formule 1, c'est un film qui va vous plaire. Après, moi, je suis fan de Formule 1, ça ne m'a pas gêné. Bien sûr qu'il y a des moments où je savais que ce n'était pas possible, que c'était trop, on va dire, scénarisé. Mais... j'ai bien aimé la force du film, c'est quand même la dualité qu'il y a entre Joshua et Sonny, parce qu'en fait leurs deux trajectoires, malgré le fait que ça s'oppose, ils ont tous les deux quelque chose à s'apporter. Voilà. Et puis on voit quand même que ça a été fait par des gens qui s'y connaissent, qui ont les conseillers techniques, machin. Et ce qui n'est pas dégueulasse, c'est de voir aussi des pilotes. Parce que comme ils ont tourné en même temps que certains Grands Prix de Formule 1, etc., vous avez les vrais pilotes. Donc ils sont inclus dans des courses. vous avez des caméras à la Top Gun Maverick, hein, c'est-à-dire carrément en immersion, vraiment sur la piste, etc. Alors oui, il y a des petites choses, mais c'est un film, voilà. C'est un film, on va dire, qui c'est une histoire crédible. Le seul truc qui m'a un peu gonflé, c'est l'amourette un peu cucu, la praline, et voir carrément qui sert à rien. Voilà, mais dans ce genre de film, il faut toujours qu'il y ait une fille. Hein, on est bien d'accord sur la question, alors que maintenant, dans les écuries, vous avez beaucoup de mécaniciennes, d'ingénieurs, il y a eu même une directrice de course, hein, enfin, je veux dire, un ingénieur course, je crois qu'elle est chez Haas, elle est avec Esteban Ocon, c'est une femme. Voilà, donc il y a de plus en plus de femmes, et tant mieux, mais c'est normal, hein, les femmes, elles ont le droit aussi d'aimer la Formule 1, et c'est comme les arbitres de foot, hein, ou les arbitres de rugby, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas aimer ça. Et qu'on ne peut pas faire de la mécanique non plus, ou de l'ingénierie. Mais franchement, voilà, la musique, tout ça, ça marche. Après, c'est vrai que Brad Pitt à 60 ans, vous vous dites quand même, 60 ans, un baquet de Formule 1, ça me semble un peu difficile à croire qu'il soit revenu à ce niveau-là. Voilà, alors Alonso a plus de 40 ans, je veux bien, mais entre 40 et 60, il y a quand même une gros écart. Voilà, c'est un bon film d'action. Voilà, c'est un bon film d'action d'été pour voir si vous aimez la Formule 1. Vous n'avez qu'à poser le cerveau, vous regardez, c'est assez sympa. Il y a des émotions fortes, il y a des choses, etc. Moi, j'ai bien aimé. Après, ça ne sera pas le meilleur film de l'année, on est bien d'accord sur la question. Appréciez qu'il soit en salle, hein, parce que tous les autres l'ont que sur Apple TV. Voilà, on est le seul, je crois, pays qui l'a eu en salle. Voilà, donc sur grand écran, ça donne, et ça vaut mieux. Puis moi, Reluquet ou Lewis Hamilton... Que voulez-vous, hein, on est une midinette ou on ne l'est pas. Voilà. Voilà, ça c'était pour le série et le ciné. On va se quitter en musique, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine, donc je vous le dis, pour la dernière émission en live. Spécial bal du 14 juillet. Inutile de vous dire que la programmation n'est pas piquée des hannetons. Ah bah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Le lutin, il est rouge fluo. Il y a beaucoup de choix de ta part. Hein. Je rappelle, je te balance, mais il y a beaucoup de choix de ta part. Si c'est nul... qui nous disent que c'est nul, ça sera ta faute, au moins pour la moitié. Allez, on se quitte en musique, vous vous occupez de vos petites oreilles, nous, on s'occupe de vos petites oreilles, ça commence bien, ah, il nous faut une pause. Nous, on s'occupe de vos petites oreilles, vous vous occupez de vous, de vos proches, et vous restez au frais, à l'ombre. Ouais, parce que ça va taper tout l'été, je sens. Allez, bisous, on se quitte en musique, avec évidemment MC Solar, bouge de là, bah Lisa, bouge de là. Ah bah ça c'est bouge là, bouge de là. Oui, bah oui. Ah bah c'est la chanson pile pour me dire casse-toi Lisa. Ciao.
Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. T'as commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une patte ma chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit
MC Solar, viens là que je te donne du réconfort.
J'ai dit non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de porc. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Je continue mon trajet, j'arrive vers la gare de Lyon. Quand je vois un gars qui se dit vraiment très fort comme un lion, il me dit Claude MC, est-ce que tu veux qu'on se boxe? Ces hématomes étaient plus gros que les seins de Samantha Fox. Il m'a fait bouge de là.
Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là.
Ma voisine de palier, elle s'appelle Cassandre. Elle a un petit chien qu'elle appelle Alexandre. Elle me dit
Claude MC, est-ce que tu peux descendre?
J'ai pris mon magnum, j'ai du mal comprendre. Elle m'a fait bouge de là.
Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là.
Directement, je suis allé chez Lucie, qui aime les chiens, les chats et 30 millions d'amis. Elle me dit
t'aimes les animaux, toi mon super MC.
J'ai dit oui, j'adore, avec du sel et bien cuit. Elle m'a fait bouge de là.
Bouge de là. De là. Bouge de là.
Plus tard dans le métro, y'a un char clos qui traîne. Il me raconte toute toute sa vie. Il me dit qu'il viendrait. Ensuite il me dit qu'il pue, qu'il faudrait qu'il se baigne. Je lui dis jette-toi dans les gouttes, t'arrives direct dans la Seine. Il m'a fait bouge de là.
Bouge de là. Bouge, bouge de là. Bouge, bouge, bouge de là.
Je continue mon trajet, j'arrive sur le boulevard Barbès. Quand je vois un de mes amis qui venait de Marrakech, il me dit Arwa, Arwa, je t'achète tes rap en dinars. J'ai dit non, je veux des dollars car on m'appelle Solar. Il m'a fait bouge de là.
Bouge, bouge de là. Bouge, bouge, bouge de là.
Alors j'ai bougé, j'ai dû m'en aller, partir bifurquer, j'ai dû m'évader, j'ai dû m'enfuir, j'ai dû partir, j'ai dû m'éclipser, j'ai dû me camoufler, j'ai dû disparaître pour réapparaître. Oh, bouge de là.